Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On a une heure ensemble, une heure pour faire de grands voyages, se replonger dans les reportages de la saison écoulée, réécouter ensemble ces témoignages qui nous disent que le monde change. Et on commencera par une plongée dans le nord-est de l'Angleterre, une région autrefois industrielle et prospère. Aujourd'hui, le taux de chômage y est deux fois plus élevé qu'ailleurs, dans une banque alimentaire de la ville d'Hartlepool. On écoutera pourquoi les habitants ont voté à 70% pour le Brexit. L'Angleterre a donné tellement d'argent aux autres pays, alors que nous ici, nous souffrons, nous nous battons. Grâce au Brexit, nous allons pouvoir créer des emplois, pour obtenir des prêts immobiliers, pour s'occuper de nos enfants. Je vous emmènerai aussi à Yellowstone, le plus vieux parc national au monde. Une merveille aux États-Unis, une mine de biodiversité et donc un endroit où ses gardiens constatent tous les jours des réactions en chaîne liées au réchauffement climatique.
L'endroit où nous sommes était sous l'eau dans les années 70. Quand j'ai grandi, il y avait beaucoup d'eau, c'était un lac, à tel point que les gens venaient pêcher ici. Mais maintenant, chaque année, il s'assèche pendant l'été et devient ce bassin rempli d'herbe.
Vous l'entendrez, l'interconnexion entre le végétal et l'animal et l'effet papillon dès que l'harmonie est brisée, cette spirale est très impressionnante. Et puis on prendra un peu plus de hauteur encore en écoutant un visiteur des carnets venu de l'Himalaya. Mathieu Ricard alerte lui aussi sur l'urgence qu'il y a à prendre soin de notre planète.
Pas être indifférent, ne pas être blasé, ne pas être négatif, ne pas dire c'est pas grave, on s'en fout, la nature, coupons les forêts, l'Amazon, on n'a rien à cirer. Faisons du soja pour faire de l'élevage industriel, pour augmenter encore plus le CO2 et le méthane. On y va, après nous le déluge, c'est pas grave.
Et à la place de tout ça, le moine bouddhiste Mathieu Ricard nous propose de contempler et de nous émerveiller. C'est la première étape, dit-il, pour respecter le vivant qui nous entoure et pour en prendre soin. Et non, ce n'est pas un discours béat. Celui qui est aussi docteur en génétique cellulaire s'appuie sur la science pour plaider la cause de la planète. Et enfin, on retrouvera Joseph Chovanec et sa passion pour le Japon. Les carnets d'été sont ouverts. Première étape, Hartlepool, dans le nord-est de l'Angleterre.
Les carnets du monde sur Europe 1, Sophie Larmoyer.
Enfin, le Brexit est acté. C'est ce qu'ont dû se dire le 31 janvier dernier tous ceux qui avaient voté pour sortir de l'Union européenne 3 ans et demi avant, en juin 2016. Il reste encore à définir ce que sera notre relation avec le Royaume-Uni à l'avenir. On a seulement jusqu'à la fin de l'année pour le faire, mais en tout cas, le processus est devenu cette année irréversible. Alors dans les carnets, on était allé tendre le micro à ceux qui ont souhaité cette séparation, ce divorce. Pauline Jacquot s'était rendue dans le nord-est de l'Angleterre, à Hartlepool, une ville portuaire sinistrée, avec un taux de chômage deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Les chantiers navals, les usines ont fermé et les 95 000 habitants ont voté à 70% pour quitter l'Europe. Quand ce reportage a été tourné dans l'une des nombreuses banques alimentaires qui ont fleuri dans la ville, c'était le premier week-end sous l'ère du Brexit, il y a exactement 6 mois.
Ces jours de bingo au foyer de l'annexe. Ici, tout le monde connaît ce bâtiment blanc coincé au milieu des petites maisons en briques rouges. Sur les 4 tables autour de la grande salle, tout est à 1 pound. Du pain de mie, du beurre, des légumes, des habits pour bébé et des sacs de vêtements chauds. Nora se lève de sa chaise. Elle interrompt quelques instants sa partie de bingo pour aller remplir sa tasse de thé.
Et si nous avons des boissons chaudes, des repas chauds, de la compagnie, quelquefois nous faisons des quiz et des bénévoles nous aident dans nos démarches pour obtenir des aides sociales. Il y a toujours quelqu'un ici pour répondre à vos questions.
Nora est une ancienne infirmière. Ses 2 fils sont aujourd'hui au chômage.
Mon fils cadet travaillait comme taxi 12 à 13 heures par jour. Il a eu une crise cardiaque à 43 ans parce qu'il travaillait trop. Il est au chômage en ce moment. L'État lui donne un peu d'argent, mais c'est surtout moi qui m'occupe de lui en attendant qu'il se remette. L'Angleterre a donné tellement d'argent aux autres pays, alors que nous ici, nous souffrons, nous nous battons. Grâce au Brexit, nous allons pouvoir créer des emplois stables, pour obtenir des prêts immobiliers, pour s'occuper de nos enfants. Quand j'étais enfant, il n'y avait aucune banque alimentaire. Maintenant, il y en a partout dans la ville.
Au bout du couloir, le torchon sur l'épaule, Michael surveille ses casseroles. Au menu aujourd'hui, haricots, frites et brocolis. Entre deux blagues à son collègue et commis du jour, ce joyeux quinquagénaire ne cache pas son épuisement, lui qui n'a jamais quitté Hartlepool.
J'ai travaillé dans une usine de conserve de tomates pendant 3 ou 4 mois. Maintenant, je suis ouvrier dans une usine de recyclage. Je viens de signer. Je commence ce soir. Nous, on veut que les usines rouvrent. On va avoir maintenant notre propre argent et nos propres emplois. J'espère que ça va marcher.
Assis devant un des écrans d'ordinateur au fond de la salle, John, 33 ans. Il est là tous les jours pour actualiser son formulaire de demande d'allocation. Le crédit universel, comparé par tout le monde ici à un système punitif mis en place en 2010 par les conservateurs. C'est aussi l'année de l'ouverture de l'annexe. Le directeur Sacha consulte ses emails de l'autre côté du couloir.
People want to change. Les gens veulent que les choses changent, et le Brexit est devenu le mécanisme de ce changement. C'est pour ça qu'il y a eu un tel score ici, c'était pas forcément contre l'Europe, c'était pour dire haut et fort, nous voulons être vus, nous voulons être écoutés. Et le gouvernement semble faire un pas vers nous maintenant, mais je suis pas d'accord avec leur formule, les gens du Nord ont été laissés de côté. Ça voudrait dire qu'un jour, on a été au même niveau, mais jamais, nous n'avons jamais joué dans la même cour. Ils se rendent compte aujourd'hui du niveau de frustration. Les gens ici ne s'attendent pas à grand-chose, donc le moindre petit investissement du gouvernement pourrait changer beaucoup de choses.
Dans la grande salle, Cathy hausse les épaules en parlant du Brexit. Honnêtement, je ne crois plus beaucoup aux promesses, mais ce que je sais, sourit-elle en montrant du doigt ses pièces de monnaie, c'est qu'aujourd'hui au bingo, j'ai gagné 5 pounds. Hartlepool, Pauline Jacquot, Europe 1.
Voilà un reportage aux airs de film de Ken Loach, hein, vraiment. On y entend un très fort sentiment d'abandon et de l'espoir aussi que le Brexit change la donne. Pauline Jacquot était revenue avec nous sur l'importance que ce vote avait eu pour cette population pauvre d'Hartlepool.
Oui, c'est vraiment le vote qui a compté ces dernières années pour les habitants. Ils ont vraiment le sentiment d'avoir été abandonnés par la classe politique. Ouais. Et les seules mesures qu'ils ont vues, qu'ils ont vécues, ce sont, disent-ils, des mesures punitives. Le crédit universel, par exemple, ce système d'allocation chômage, eh bien, beaucoup ont été exclus ou sanctionnés juste parce que quelquefois, ils ont raté un rendez-vous ou alors qu'ils sont trop malades pour travailler. La santé, c'est vraiment un gros problème dans cette ville où, pour la première fois depuis un siècle, l'espérance de vie des habitants a baissé.
Ouais, c'est un signal terrible, ça. Et dans leur esprit, c'était forcément la faute de l'Europe.
Forcément, l'Europe, encore l'Europe, toujours l'Europe, effectivement. Cette Europe, elle paraît très éloignée du quotidien, ce référendum du Brexit. Cette question, oui ou non, est-ce que vous voulez quitter l'Union européenne ? Eh bien, pour une fois, les gens se sont dit pour ce référendum, oui, ma voix va compter. Ils sont allés voter pour le Brexit. Et il y a eu quelque chose d'extrêmement rare ici, c'est que le jour du référendum, il y a eu de très longues files d'attente devant les bureaux de vote.
Ce vote, c'est une manière de dire, on y arrivera mieux tout seul.
Oui, c'est l'espoir aussi de retrouver un passé regretté. Le passé de cette ville qui était autrefois, on l'a dit, l'une des capitales industrielles du pays. Les mines, les usines chimiques, les chantiers navals ont disparu. Et ce sont maintenant les pubs qui jonchent la jetée le long du port. Et c'est exactement à cet endroit que j'ai rencontré Janice qui m'a dit cette phrase « Le Brexit peut nous faire retrouver notre fierté perdue ».
Il y a un nouveau métro qui va être construit à Newcastle. Mais le contrat a été remporté par la Suisse, alors qu'on a une usine juste à côté qui sait très bien construire ces machines. On est forcé de réagir. On se débrouillait très bien avant. Il n'y a aucune raison que ce soit différent aujourd'hui. Je suis très optimiste pour la suite.
C'est cette nostalgie qui a été en fait le terreau du Brexit, avec cette certitude de pouvoir s'en sortir beaucoup mieux sans l'Union européenne.
Et pourtant, Pauline, ces villes du nord-est de l'Angleterre ont été largement aidées par l'Union européenne. européennes. Elles ont reçu des subventions.
Oui, des dizaines de millions d'euros, mais en fait, personne n'a vraiment le sentiment d'en avoir profité. Et les gens ici disent, de toute façon, nous aussi, on paye pour l'Europe, donc ça ne sert à rien, autant se débrouiller tout seul. En revanche, là où j'ai noté que certains Anglais commençaient à douter, c'est dans ces villes du Nord-Est où les entreprises étrangères sont installées. À Sunderland, par exemple, il y a une usine Nissan qui fait vivre directement et indirectement 25 000 personnes. 25 000 personnes, c'est plus de 10% de la population. Et il y a une question qui taraude les habitants en ce moment, c'est est-ce que Nissan va rester ? La ville a pourtant voté très clairement pour le Brexit, 60% des électeurs. Mais il y a un doute, il y a une angoisse, mais très peu regrettent ouvertement leur vote. Là encore, c'est l'Europe qui est accusée. Si Nissan s'en va, ce ne sera pas à cause du Brexit, ce sera de la faute de Bruxelles et de cette interminable négociation d'un accord qui n'est toujours pas trouvé.
Interminable négociation, effectivement, car ils y sont toujours. Et pour le bilan, il faudra attendre quelques années. Changement de décor, dans un instant, on sera dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, une merveille de biodiversité depuis des milliers d'années, mais qui montre aujourd'hui tous les signes de fragilité. Les carnets d'été sont l'occasion de réentendre certains de ces grands reportages qui montrent de façon éloquente ces bouleversements. Au moment du sommet climat de l'ONU, la COP25 en décembre dernier, on avait suivi Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis, dans un parc national mythique, celui de Yellowstone. C'est le premier parc national au monde créé en 1872. Il s'étend sur 3 états de l'ouest du pays et c'est un sanctuaire de la vie sauvage, un site classé au patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. Et même là, l'effet papillon du réchauffement climatique fait son œuvre et abîme la biodiversité. C'est incroyable de constater, vous allez l'entendre, comme tout est lié entre les animaux, les végétaux. Une catastrophe en entraîne une autre. Xavier Yvon nous avait d'abord dressé le tableau magnifique de ce parc de Yellowstone.
Oui, c'est vrai que visiter Yellowstone, c'est comme plonger dans une carte postale de l'Amérique sauvage. Alors, je vais vous faire monter avec moi dans la voiture de Nathan Varlet. Il est né, pour ainsi dire, à Yellowstone. Il y a grandi et ça fait 20 ans qu'il y travaille comme guide.
Alors, nous venons juste de passer par l'entrée nord du parc Yellowstone. Là, nous sommes en train de longer la rivière de Gardner. Et là, on voit un élan qui semble très mal en point. Je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Tu as vu cet élan là-bas ? On va s'arrêter pour voir de plus près.
Alors, on s'est arrêté et on a vu des coyotes tourner autour de cet élan blessé. Un peu plus loin, j'ai vu aussi à la jumelle d'autres coyotes qui, eux, se disputaient une carcasse avec des loups. Et puis, il y avait aussi, au détour d'un virage, une horde de dizaines de bisons en train de paître dans un paysage de collines et de montagnes enneigées. C'est vraiment un endroit majestueux.
Ouais, j'imagine. Bon, vous n'y étiez pas pour faire du tourisme, Xavier, mais pour nous faire comprendre justement le réchauffement climatique. Pourquoi là, à Yellowstone ?
Parce que Yellowstone, c'est un endroit tellement préservé que c'est une machine à remonter dans le temps pour les scientifiques. Pour Cathy Whitlock, par exemple, ça fait 40 ans qu'elle fait des recherches dans ce sanctuaire de la biodiversité. Elle creuse la boue des lacs pour récupérer des sédiments et elle les rapporte ensuite dans son laboratoire de l'Université du Montana où elle les analyse. Grâce à ça, elle connaît le climat de Yellowstone sur les 50 000 dernières années. Écoutez.
Ces sédiments nous disent, sur la couche tout en haut, ce qui se passe aujourd'hui. Et plus on descend dans les couches, plus on remonte dans le temps jusqu'à la fin de l'âge de glace. Couche par couche, nous regardons le pollen nous parle des plantes, les plantes nous parlent de la végétation et la végétation nous parle du climat. Donc nous utilisons les traces de pollen pour savoir quels étaient les climats dans le passé. On a constaté qu'il y avait eu un réchauffement spectaculaire à la fin de l'âge de glace. Yellowstone s'est réchauffé de 4 degrés Celsius, mais ça a pris plusieurs milliers d'années. Et ce qu'on voit maintenant, c'est le même réchauffement, mais en dizaines d'années. C'est du jamais vu. Ça donne le diagnostic de ce qui se passe partout sur la planète.
Et Yellowstone a pris 1 degré depuis 1948.
Waouh, c'est fascinant et effrayant. Et ça, Xavier, c'est ce qu'on voit dans les statistiques des scientifiques, mais à l'œil nu sur place, est-ce que le réchauffement se voit ?
Alors oui, mais pour un œil exercé, celui de Nathan, notre guide par exemple, on remonte en voiture avec lui. Premier stop, Phantom Lake, qui porte bien son nom.
L'endroit où nous sommes était sous l'eau dans les années 70. Quand j'ai grandi, il y avait beaucoup d'eau. C'était un lac, à tel point que les gens venaient pêcher ici. Mais maintenant, chaque année, il s'assèche pendant l'été et devient ce bassin rempli d'herbe. Le gros changement, c'est que je me souviens qu'en Phantom Lake ne s'asséchait jamais.
Et ce n'est pas le seul lac du parc qui manque d'eau. Un peu plus loin, Nathan désigne une autre étendue herbeuse où il n'emmène plus ses groupes de touristes. Et voilà pourquoi.
Le lac de l'île flottante était l'un de mes arrêts préférés à cause de la très grande variété d'oiseaux qu'on pouvait y voir. Les nids au printemps, les jeunes en été, il y avait une douzaine d'espèces différentes. Maintenant, on en a juste 4 ou 5. Nos cygnes, par exemple, les cygnes trompettes natifs du Yellowstone. On avait des dizaines de couples en train de couver sur les petits lacs et les mares. Maintenant, il en reste juste une poignée.
Et cette sécheresse qu'on constate, ça favorise les incendies l'été. Nathan appelle même ça la cinquième saison de l'année, quand les feux remplissent l'air d'une odeur de fumée pendant des semaines. Et ces incendies favorisent l'émergence de plantes invasives qui repoussent plus vite que le reste. Nouveau stop, cette fois c'est Mike Terzek, un ami biologiste de Nathan, qui se penche pour nous montrer une mauvaise herbe qu'on appelle ici cheatgrass et qui se répand très vite avec le réchauffement.
Cette plante tourne rouge-brun en début de saison. Et grâce à ça, vous pouvez voir jusqu'où elle monte sur les collines. Et chaque année, on le constate, cette vague rouge monte de plus en plus haut. Et elle colonise d'autres zones du parc où on ne la voyait pas avant. C'est très inquiétant. Si cette herbe envahit la partie nord que nous venons de traverser, là où les animaux vivent l'hiver, ça fait beaucoup de dégâts dans l'écosystème parce que c'est une espèce mauvaise à manger et mauvaise pour la terre. S'il y a une végétation moins nourrissante, ça veut dire moins d'élan, moins d'herbivores, donc moins de prédateurs comme les loups, ça ferait un effet domino.
Et Nathan, lui, observe déjà, par exemple, depuis plusieurs années, que les écureuils des plaines disparaissent de plus en plus tôt pour hiberner. Tout ça parce qu'ils ne trouvent plus assez à manger à la fin de l'été. Mais la principale victime du réchauffement à Yellowstone, on la trouve à 3000 mètres d'altitude. C'est la forêt de pins à écorce blanche. Elle a été détruite à 80% ces dernières années.
Et qu'est-ce qu'il a détruite ? Que s'est-il passé ?
Bien avant, le froid empêchait un insecte tueur d'arbres d'atteindre ces pins protégés par l'altitude. Mais avec le réchauffement, ces parasites ont survécu à l'hiver et ils ont pu s'attaquer à la forêt. Ça a été donc dévastateur et très pénible à observer pour Jesse Morgan, qui étudie ces pins à écorce blanche depuis des dizaines d'années.
Vous rentrez dans ce paysage étrange et gris d'arbres morts toujours debout. Ce qui était une forêt verte et vivante avec des écureuils, des oiseaux, des grizzlies, est devenu calme comme un cimetière. Une forêt fantôme.
Ces pins à écorce blanche, ce sont des arbres qui peuvent vivre 1000 ans. C'est une espèce fondatrice de l'écosystème dans ce paysage de granit. Ces pommes de pin nourrissaient toute la faune, donc les grizzlies, qui maintenant sont obligés de descendre de la montagne avec un plus grand risque de rencontrer du bétail, des hommes et donc des problèmes. Ces pins permettaient aussi à la terre d'être plus fertile. Et puis, ils avaient aussi un rôle essentiel pour l'alimentation en eau de la région.
Dans l'ouest, l'eau provient en majorité de la neige et elle est relâchée lentement à mesure que la neige fond à partir du printemps. C'est l'eau qui irrigue nos champs, c'est l'eau que nous buvons. Et l'ombre créée par cette forêt de haute altitude est très importante. Elle permet de maintenir un réservoir. Grâce à l'effet de cette ombre, la neige fond lentement et relâche un flux constant d'eau. Et ce, même pendant l'été. Mais si vous enlevez ces arbres, la neige fond beaucoup plus vite. Vous avez donc un flux d'eau plus faible avec des conséquences dévastatrices.
Ce sont des conséquences en cascade et un constat alarmant, Xavier. Est-ce qu'il y a des solutions ?
Alors, il y en a une, et tous mes interlocuteurs ont insisté, il faut stopper le réchauffement en réduisant nos émissions de carbone. Et oui, tout ce qu'ils décrivent comme scénario, tout ce qu'on a développé, c'est ça, c'est si rien ne change. Donc, il y a urgence à agir. Mais si on continue comme ça, en effet, Yellowstone ressemblera de plus en plus à un désert. Il faudra faire des choix, on ne pourra pas sauver toutes les espèces. Dans d'autres parcs nationaux américains, on envisage même de relocaliser certains animaux et certaines plantes pour s'adapter au changement climatique.
Voilà, ces dégradations en cascade, c'est vraiment très édifiant et clair à l'échelle d'un grand parc national comme Yellowstone. Reportage diffusé donc à l'occasion de la COP25 qui s'est tenue à Madrid en décembre dernier et qui, de l'avis général, a accouché d'une souris malgré l'urgence de la crise. Les grands émetteurs de gaz à effet de serre, à commencer par les États-Unis de Trump, ayant été les principaux freins dans les négociations Prochain sommet climat, si la pandémie le permet, ce sera à Glasgow, en Écosse, à la fin de l'année. Dans quelques instants, on continue à parler de notre belle planète avec un homme qui nous recommande de la regarder mieux et de savoir nous émerveiller. Il s'agit de Mathieu Ricard. À tout de suite. C'est toujours un moment plein d'enseignements de recevoir Mathieu Ricard, moine bouddhiste. C'est un homme très engagé pour l'environnement qui réside dans l'Himalaya depuis une cinquantaine d'années. Il était venu nous visiter avec deux beaux livres sous le bras, des livres de photos puisque c'est l'un des talents de Mathieu Ricard. Contemplation et émerveillement, ce sont les titres de ses livres. Les photos sont époustouflantes, des paysages d'Himalaya mais aussi de Patagonie, d'Islande ou du Yukon dans le nord-ouest du Canada. Et les textes sont de véritables plaidoyers très argumentés pour une prise de conscience de la crise écologique que nous, les hommes, avons déclenchée. Mathieu Ricard.
Alors, tout d'abord, si on s'émerveille, c'est là qu'on a quand même côtoyé la nature. Moi, j'ai vu l'Himalaya devenir de plus en plus noir au bout de 50 ans. Les glaces au Tibet qui, pendant l'hiver, supportaient pendant 3 mois le bétail, les camions. Maintenant, c'est 3 semaines. Donc, les gens du coin, ils n'ont jamais entendu parler du réchauffement global dans les médias et de la bouche des scientifiques, mais ils le savent très bien. Alors, pourquoi l'émerveillement? C'est vrai que l'émerveillement mène au respect. C'est-à-dire quand vous êtes émerveillé par un paysage sublime, par un arbre extraordinaire, par des animaux sauvages, ben vous n'allez pas, la seconde d'après, vouloir les détruire, les endommager, gâcher tout cela. Donc le respect, du coup, mène à l'idée de prendre soin de ce qui vous émerveille. Et prendre soin, du coup, ça amène à l'action. Donc c'est une manière constructive et inspirante de se mobiliser, si vous voulez, pour protéger cette merveilleuse nature qui nous entoure.
C'est un premier pas indispensable, en fait, pour arriver à l'action.
Et puis après, on peut s'émerveiller aussi du fait que la nature, l'exposition à la nature favorise la santé physique, mentale, il y a toutes sortes d'études passionnantes, et que le contraire aussi est nuisible à notre créativité, à notre santé. Donc l'ensemble de la chose fait qu'on est extrêmement motivé pour ce qui est le grand défi du 21e siècle, c'est-à-dire préserver, malgré tout, de souffrances considérables et de bouleversements de notre environnement.
Ça, s'émerveiller, c'est ne pas être indifférent, d'abord.
Pas être indifférent, ne pas être blasé, ne pas être négatif, de ne pas dire « c'est pas grave, on s'en fout, la nature, coupons les forêts, l'Amazon, on n'a rien à cirer, faisons du soja pour faire de l'élevage industriel, pour augmenter encore plus le CO2 et le méthane, on y va, après nous le déluge, c'est pas grave ».
On ne l'entend pas beaucoup, ça, quand même. Personne
n'ose.
Ah bon,
on l'entend de 2-3 fous furieux qui sont à la tête de nations puissantes. Ouais. Et malheureusement, ça a des conséquences très graves.
Personne n'ose le dire, mais certains le font. Pendant ce temps qu'on va passer ensemble, Mathieu Ricard, on va entendre un reportage et un témoignage qui sont en résonance avec ce regard que vous portez depuis des années. Alors d'abord, justement, on va entendre des moines qui sont en Thaïlande. Malgré la petite taille du pays, en fait, la Thaïlande est le 5e pollueur mondial des océans. Je ne sais pas si vous le saviez. Les Thaïlandais utilisent en moyenne 8 sacs plastiques par jour et par personne. Et en plus, le pays récupère des tonnes de poubelles, poubelles.
Bah c'est sympa.
Surtout depuis que la Chine a interdit l'année dernière l'importation des déchets plastiques en provenance des pays développés. Alors, en réaction, il y a un mouvement citoyen anti-plastique qui est en train d'émerger là-bas en Thaïlande, avec en première ligne les moines bouddhistes. Carole Izou, notre correspondante à Bangkok, a passé un moment avec ses bonzes écolos. Voici son reportage.
Équipés de gants, de pelles et d'une bonne dose de bonne humeur, ces volontaires sont venus à près d'une centaine ce matin pour nettoyer la plage de Bangkrachao, une zone boisée à quelques kilomètres de Bangkok. Située au bord de l'eau, elle reçoit chaque jour des kilos de déchets plastiques charriés par le fleuve. Mère de famille, étudiants, cadres de multinationales ou associations de travailleurs migrants, toutes les composantes de la société thaïlandaise sont représentées.
On a trouvé des bouteilles, des gobelets et des bols en plastique.
Et les chaussures, les tongs là, j'en fais quoi? Ça se recycle des tongs?
Je sais pas moi.
Parmi les volontaires qui se démènent le plus, un groupe d'hommes au crâne rasé, à la toge orange, et oui, des moines bouddhistes. Ce sont eux qui organisent le grand nettoyage des environs. Ils vivent à quelques centaines de mètres de là, dans un temple surnommé le Temple Zéro Déchet. Ici, tout est ramassé, trié, recyclé. Chaque matin, ils ramassent sur terre et dans l'eau des kilos de déchets plastiques grâce à une observation rigoureuse de la nature, comme nous l'explique Ajahn Kai, l'abbé du monastère.
On collecte à une heure bien précise, à marée haute. Il y a une série de vagues qui amènent tous les déchets sur le rivage. Ensuite, avant que l'eau ne baisse, on a une fenêtre de 3 heures environ pour ramasser. Si on attend trop, alors tous les déchets sont entraînés par les courants vers l'océan. C'est important l'observation de la nature si on veut être efficace. On s'inspire des méthodes des pêcheurs.
Les déchets sont ensuite soigneusement triés, puis broyés, transformés en minuscules pastilles, puis fondus et tressés en fibres de polyester. Avec le tissu obtenu à partir des bouteilles plastiques, des robes de moines sont cousues. Il faut environ une douzaine de bouteilles pour fabriquer une robe. À chaque étape, les moines peuvent compter sur des volontaires du quartier. Aujourd'hui, des ouvriers birmans qui viennent chaque fin de semaine donner de leur temps.
On travaille à l'usine d'à côté. On vient aider les moines le dimanche pour faire quelque chose d'utile. On n'a pas d'argent à donner au temple, alors on vient aider sur notre temps libre pour obtenir du mérite.
Le mérite, une notion importante dans la pratique bouddhiste populaire, notamment pour s'assurer une bonne réincarnation. L'autorité morale des moines est encore très importante dans la société thaï. Pour l'abbé Ajahn Chah, protéger l'environnement est en réalité un enseignement de base de la religion bouddhiste, un devoir pour tous les pratiquants.
Dans les devoirs religieux bouddhistes, il est écrit très clairement qu'il faut tenir sa maison propre et l'environnement aussi. Il est interdit de jeter des déchets dans l'eau, de salir la nature autour de soi. Les arbres jouent un rôle important dans le bouddhisme en produisant de l'oxygène pour l'esprit, de la joie, des couleurs. Le Bouddha est né sous un arbre. C'est sous un arbre qu'il est devenu l'éveillé, puis qu'il est mort. Les arbres contiennent l'eau, la vie. Les bouddhistes ont donc le devoir absolu de protéger les arbres et même dans l'état actuel du monde, je dirais, de planter des arbres.
Mais pour changer en profondeur les habitudes de la société thaïlandaise, les moines du temple Chat Deng ont bien conscience que c'est à la jeunesse qu'il faut s'adresser. Chaque semaine, ils reçoivent donc des étudiants pour des séminaires, des formations. Aujourd'hui, un petit groupe de première année est assis en cercle autour du moine formateur. Il se saisit du sac d'une jeune fille qu'il fait passer à la ronde et demande aux jeunes d'énumérer toutes ses propriétés, ses fonctions, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à sa fabrication, du directeur marketing à la femme de ménage de l'usine qui l'a produit.
Un sac en tissu, oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Oui, allez, allez, allez.
Il a une fermeture éclair?
Oui, le mode de fermeture, très important, ça change tout. Au suivant.
Ici, pas de sermon sur la nécessité de consommer moins, mais simplement une attention particulière portée à l'objet pour faire prendre conscience aux étudiants de toutes les ressources humaines et matérielles mobilisées pour la production d'un seul objet et de l'interconnexion des actions humaines. La journée s'achève par une réflexion sur le bonheur. Que faut-il posséder pour être heureux ? Une réflexion essentielle, estiment les moines, pour faire diminuer la consommation en général, celle de plastique en particulier. Bangkok, Carole Izou, Europe 1.
Et on va retrouver Mathieu Ricard dans un tout petit instant pour la suite de cet entretien. C'est un cri du cœur écologique qui n'a rien perdu de sa pertinence ces derniers mois, surtout pas avec la crise du coronavirus qui nous incite plus que jamais à respecter le vivant. Mathieu Ricard nous parlait de l'urgence du défi environnemental qui est devant nous. Et je lui demandais si nos cultures étaient prêtes à renoncer à la société de consommation, voyant par exemple comment Greta Thunberg, fer de lance des jeunes écolos, était parfois moquée par les décideurs ou dans les médias.
C'est un peu minable de se moquer d'elle, parce qu'en fait, ce qu'elle dit, c'est que c'est nous les générations à venir. Écoutons les scientifiques. Je ne vois pas pourquoi on peut se moquer de ça, parce qu'on ne les écoute pas assez et de loin. Et donc, c'est un cri du cœur qui, quand elle a dit aux chefs d'État, aux Nations Unies, vous trahissez les générations à venir, non seulement c'est fort, mais c'est juste. Donc, écoutons-la.
Est-ce que la société est prête à faire la grande bascule, finalement, vers un autre mode de consommation, une autre manière d'envisager leur quotidien?
Alors, l'évolution des cultures est un domaine d'études très intéressant. Et l'évolution des cultures, ça prend un petit peu de temps. C'est-à-dire, ça prend en général une génération.
On a le temps, là?
On sait, ben justement, on sait que le tabac provoque la mort depuis 30 ans et ça a mis un certain temps avant qu'on interdise le tabac dans les lieux publics et malgré tout, il continue à tuer 6 millions de personnes par an. Donc ça prend du temps. Néanmoins, il y a quand même, par rapport à il y a 20-30 ans, il y a un énorme changement de prise de conscience. Alors, la société de consommation, c'est pas non plus démoniser tout un ensemble. Simplement se rendre compte qu'un citoyen américain moyen émet 200 fois plus de CO2 qu'un Zambien, qui naturellement aspire à avoir un peu plus d'accès à l'énergie, donc il faudrait mettre des énergies renouvelables à 100%, cesser de sponsoriser au taux de 400 milliards par an les énergies fossiles pour mettre tous les efforts dans la recherche et la technologie des énergies renouvelables. Il y a beaucoup à pas faire. Simplement, il y a une sorte de tiédeur des politiques. Et je crois que Winston Churchill disait « Un homme d'État pense aux générations à venir, un homme politique aux prochaines élections ». Donc c'est ça qui est dommage, c'est que c'est des mesures qui ne seraient pas forcément populaires. Les 2000 scientifiques du GIEC recommandent par exemple de diminuer de 80% la consommation de viande.
Ben bon, oui.
Sur France 2, il y avait une émission où on demandait aux gens « Êtes-vous prêts à ne pas manger de viande et de poisson un jour par semaine ?» 98% des gens ont dit oui. Donc, vous voyez, il y a quand même une prise de conscience qui est très encourageante.
Et en même temps, il faudrait plus que ça pour réduire de 80% la consommation de viande. Et puis, certains se disent peut-être que ce n'est pas son steak qui va changer les choses et que peut-être, justement, là, on atteint à sa liberté individuelle.
Alors, ce n'est pas seulement ça, c'est l'idée de la dilution de la responsabilité. Ce n'est pas moi qui ai créé le réchauffement global. Et j'ai une amie scientifique qui disait, si le CO2 était rose et que le ciel devait être de plus en plus rose, on commencerait à s'alarmer un petit peu. Donc, l'évolution nous a éclipsés à réagir émotionnellement à des dangers un peu plus lointains. Proches, je veux dire. Donc, si la maison est en feu, on s'en va. Si on dit qu'il va être en feu dans 30 ans, ben, on verra. C'est le problème.
Comment vous expliquez l'inertie, justement, des décideurs? Parce qu'ils ont accès à toutes ces données scientifiques dont vous parlez.
Oui, mais ils considèrent quand même les scientifiques un peu comme des empêcheurs de tourner en rond. Parce que forcément, ça sera des mesures assez peu populaires. Quand on voit, quand on essaie d'augmenter le prix de l'essence, s'il fallait le doubler... Alors ça toucherait aussi beaucoup les gens les plus démunis. Donc c'est ça qui est injuste. Il y a une grande injustice dans le réchauffement climatique. Ce sont les personnes les plus pauvres qui sont aussi le plus touchées.
Quand vous évoquez la sobriété heureuse que vous prenez, peut-être pour remplacer la société de consommation frénétique, ça fait sourire beaucoup de dirigeants, beaucoup de décideurs, beaucoup de monde finalement.
Oui, ben ça prouve que de nouveau la science n'est pas prise en compte parce qu'il y a des études qui montrent que les gens qui sont le plus portés à la consommation et au matérialisme sont généralement moins heureux, en moins bonne santé, ont moins de véritables amis, jouissent moins de l'existence et que ceux qui mettent davantage l'accent sur les valeurs intrinsèques, c'est-à-dire l'amitié, savoir être bien avec soi-même, être dans la nature, ils sont plus heureux, ils ont plus d'amis, plus concernés par les problèmes globaux.
Mathieu Ricard, tout ça, ce sont des études très sérieuses.
Tout à fait, c'est pas
des trucs new age. Vous êtes vous-même un scientifique.
Moi, je suis pas un moine bouddhiste toc. Dans mon livre sur l'altruisme, il y a 1600 références scientifiques. Donc, l'idée, c'est d'être rigoureux.
C'est pas de la naïveté, de l'idéalisme. C'est fondé, toutes ces études-là.
Les scientifiques, malheureusement, ils sont quand même ennuyés qu'on ne tienne pas compte de ce que la réalité.
Alors, s'émerveiller de tout, de rien, retrouver un regard d'enfant sur la nature, c'est un petit peu ce que vous prenez. Je vous propose d'écouter une femme qui, depuis 3 ans, en Belgique, anime un cours de philosophie et de citoyenneté dans une école primaire à Bruxelles. Ce cours a été créé dans la foulée des attentats du 21 mars à Bruxelles. Esma Saban, c'est le nom de cette enseignante, a décidé d'en faire un cours d'empathie. Isabelle Horry, notre correspondante, est allée la rencontrer chez elle. Je vous propose de l'écouter.
Le fait d'être en empathie avec l'autre, pour moi, c'est nécessaire pour développer sa citoyenneté et développer aussi le fait de coopérer. C'est ce que je leur dis. Je leur dis, écoutez les gars, si chacun d'entre nous, on vivait sur une île déserte, ben, je pense qu'on n'aurait pas besoin du cours et qu'on n'aurait pas besoin d'être en empathie parce que, enfin voilà, on est tout seul, c'est OK. Mais l'idée, c'est qu'on est ensemble et donc on travaille sur les plus grandes émotions, donc la peur, la sérénité, l'amour, la tristesse, la colère. Je travaille à travers un album qui s'appelle La couleur des émotions. Donc ça, c'est très, très simple. Donc je lis l'histoire et puis il s'identifie vraiment à chacune des émotions. Et alors, des fois, on les surjoue, on joue la colère. Et donc là, il s'imprègne bien de chacune des émotions de base. Et puis ensuite, comment moi je suis quand je suis en colère? Est-ce que tu as déjà observé quelqu'un quand une autre personne est en colère et comment est-ce qu'elle réagit? Est-ce qu'on réagit tous de la même manière? Donc c'est comme ça que je développe l'empathie avec les tout petits. Ils ont des petits pots. Enfin, ce sont des dessins de petits pots. Et ils doivent remplir, eux, ce qui les met en colère et leur réaction face à la colère. Et puis ensuite, la tristesse, la peur. Et puis chacun présente. Et donc, dans une classe, ah oui, moi aussi, je réagis comme ça. Ah, moi aussi, ça me met en colère. Ah non, moi, pas du tout. Et ça permet de rentrer en empathie aussi avec l'autre et de se dire, y a plein de choses différentes et c'est OK.
Est-ce que vous constatez que le fait d'avoir fait ça, ça a changé quelque chose dans leur comportement?
Ils deviennent acteurs, en fait. Ce que je ressens, c'est qu'ils se responsabilisent face à ce qui se passe. Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Ah oui, c'est vrai, là j'étais en colère. J'aurais dû, parce qu'on sait que quand on est en colère, l'idée c'est peut-être de s'éloigner d'abord et puis revenir, mais réagir à chaud, c'est pas... Il y a des enfants qui ont directement accroché sur le système de réaction, action-réaction. Ils sont venus me dire, madame, merci. Ça nous a apporté un peu plus d'outils pour régler les conflits dans la cour de récréation. Il y en a qui sont tout simplement venus me dire que ça leur fait du bien, en fait, de déposer. Qu'ils ont l'impression de vider quelque chose, de s'accepter aussi, de se dire « bah oui, c'est vrai, je suis triste ». Et c'est OK parce que ça existe en fait, je ne suis pas tout seul. Cet espace que j'ai ouvert, cette permission entre guillemets, cette liberté que j'ai donnée à travers ce cours, ça a permis à des enfants de se sentir un peu plus légers et libres. Après, est-ce que ça a un impact positif sur leurs résultats scolaires? Ça, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait que je pose la question à mes collègues.
Oui, bah alors c'est formidable.
Mathieu Ricard, vous réagissez directement.
Ça, en fait, dans toutes les écoles. Parce qu'en fait, il y a aussi des études tout à fait sérieuses qui montrent que l'intelligence émotionnelle, donc cette institution qui se développe avec beaucoup de talent et de discernement, prédit beaucoup mieux l'épanouissement et la réussite dans la vie universitaire, professionnelle, que le quotient intellectuel et les facultés logiques de résoudre des problèmes ou d'engranger des informations. On manque tout cet aspect de cultiver un équilibre émotionnel, cultiver des valeurs, parce qu'on dit qu'il faut rester neutre, mais les enfants ne restent pas neutres, ils apprennent des valeurs au travers des jeux vidéo violents qui sont très délétères. Et donc, qui pourrait être contre la bienveillance, l'empathie, la sérénité, l'honnêteté, la franchise, la camaraderie?
On parle de liberté gagnée, c'est ce que dit cette enseignante, pour chaque enfant. Et vous dites que ça fonctionne de la même manière pour les enfants dans le contact avec la nature.
Oui, alors on a montré, des études ont montré que les enfants qui étaient souvent exposés à la nature, quand ils revenaient dans les classes, étaient beaucoup plus créatifs dans la manière de trouver des solutions à des problèmes. Parce que la nature vous montre comment la nature elle-même, les espèces entre elles, la symbiose, toute la complexité, l'interdépendance, comment la nature résout des problèmes. Et d'autres études sont très troublantes, quand ils publient dans des revues médicales anglaises, montrent que les enfants qui ont grandi exclusivement dans un milieu urbain ont une probabilité accrue de 10% de risque de schizophrénie et de dépression. C'est quand même inquiétant.
Parmi tous les gens qui s'assoient sur les données scientifiques que vous citez et que vous citez abondamment dans les textes que vous proposez dans ce livre, il y a des gens très importants, de très grands pays. On pense à Donald Trump, on pense à Jair Bolsonaro aux États-Unis et au Brésil. Ces gens-là, ils sont élus. Pourquoi le populisme progresse par ignorance?
Malheureusement, oui, un manque d'éducation, un manque d'ouverture au monde. Aux États-Unis, des gens assez discernants disaient qu'on a négligé l'éducation des classes moyennes et des classes pauvres pendant presque 30 ans aux États-Unis. Quand les gens vous disent qu'ils ne croient pas au réchauffement climatique et qu'ils écoutent ça sur Fox News, ils n'ont pas connu le monde, n'ont pas voyagé, n'écoutent pas les nouvelles internationales, n'écoutent certainement pas les scientifiques. Il y a une méfiance accrue, ça a été montré aussi. Depuis les 20 dernières années, on se méfie des scientifiques. C'est quand même incroyable. Trump a dit que les scientifiques du GIEC ont un agenda. C'est-à-dire qu'ils ont un but caché. S'il y a quelqu'un qui a un agenda, c'est bien les industries pétrolières et autres. Pourquoi ces scientifiques qui ne cherchent uniquement qu'à essayer de débrouiller un peu l'écheveau très complexe des changements climatiques auraient-ils un agenda autre que d'établir ce qui se passe?
L'urgence que certains décrivent peut faire peur. Comment finalement avancer sans se décourager? Si on devait avoir un message un peu positif.
Alors,
là, pour
disons,
terminer.
Il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche. Donc, avoir peur à un certain moment, ce n'est pas trop mal. Mais ensuite, voir toutes les solutions qui existent. Alors, les scientifiques nous disent que les solutions existent. Mais ils disent aussi que ça impliquerait des changements majeurs dans notre manière de vivre. Bon, c'est à nous de choisir. Alors, il y a d'autres manières. Ce livre sur l'émerveillement, ce sont des belles images sur la nature. Il y a une campagne des Verts en Allemagne qui a utilisé les mêmes méthodes, c'est-à-dire qui a mis dans la ville des images très belles de nature sauvage. Et ça a eu un impact très constructif sur les gens. Ils disaient, bah oui, c'est vrai ça quand même, on devrait, ça serait trop dommage de gâcher la part sauvage du monde.
Que sommes-nous prêts à changer dans nos vies? La question nous est posée aujourd'hui. En tout cas, Mathieu Ricard nous propose, lui, l'émerveillement comme un super pouvoir. Et c'est aussi le titre de ce très beau livre aux éditions de La Martinière. Notez bien que tous les droits d'auteur sont reversés à son association humanitaire qui s'appelle Karuna Sechen et qui vient en aide à des populations reculées qui touchent 380 000 personnes en Inde, au Népal, au Tibet. Karuna Sechen a lancé d'ailleurs un plan d'urgence humanitaire pour aider ces populations à faire face à la crise de la Covid-19 et à la crise économique. L'autistan, c'est le monde vu par les yeux de Joseph. Voilà 5 saisons qu'il partage avec nous ses anecdotes de voyage et de rencontres. Et ce jour-là, quand on l'avait appelé, Joseph était au Japon
un des pays qui le passionne justement.
Eh oui, salutations de l'autre côté du monde. Pour découvrir l'univers de l'autisme que nous appelons ici l'autistan, il y a deux possibilités, soit au lit des bouquins savants, ce qui est un peu chiant, soit on part à la rencontre des gens différents. Et justement, par un curieux hasard, il y a de profondes ressemblances entre le monde de l'autisme et certaines cultures. Un ressortissant d'autistan ne peut donc que se sentir à l'aise dans certains coins du monde. Le cas le mieux documenté, c'est celui du Japon.
Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes autistes, pas seulement, hein, mais notamment qui sont passionnées par le Japon.
Et à un degré extrême, notamment les no-life, comme on dit sur Internet. Oui. Il y a même un terme pour cela dans la web culture, ce sont les weebs, W-E-E-B. Ces non-japonais qui finissent par vivre dans un environnement culturel caricaturalement japonais.
Alors comment vous expliquez cette passion, vous ?
Bah, Sophie, il suffit d'aller au Japon pour comprendre pourquoi. Soudain, tout bascule. Nous autres, les gens bizarres devenant normaux et vice-versa. Par exemple, en Occident, il est considéré comme absolument nécessaire de regarder les autres dans les yeux quand vous leur parlez. C'est très difficile à faire, notamment pour les enfants autistes. Mais bonne nouvelle, au Japon, ne pas regarder dans les yeux, c'est de la politesse même. Si vous aimez vous balancer comme beaucoup d'enfants autistes en Europe, vous devez vous retenir, sinon va vous punir à l'école. Mais ici, au Japon, vous pourrez le faire. Tout le monde dira que vous êtes poli et multipliera également les courbettes. Ouais. Et en Occident, beaucoup de choses posent problème aux camarades autistes. Par exemple, la propreté ou plutôt la saleté des rues. On peut aller au Japon et là, subitement, tout est propre. On ne plaisante pas avec l'hygiène ici. Porter un masque, se désinfecter les mains, nettoyer le métro, la chaussée jusqu'à ce qu'elle ressemble à un miroir, c'est normal. Autre problème récurrent des camarades autistes, le bruit, les gens qui parlent fort. Je suis toujours épaté de voir que nombre d'Occidentaux ne peuvent pas vivre dans le silence. Ils ont besoin de mettre la musique, de parler à voix haute. C'est ce qu'on appelle un moment festif de joie chez les non-autistes.
Ouais, alors qu'au Japon, on parle plutôt à voix basse, hein?
Où on ne parle pas du tout. Par exemple, les Japonais n'aiment pas téléphoner. Ouais. Et ça, c'est comme en autistan. Quand vous allez même dans des quartiers très centraux des immenses villes du pays, les seuls éclats de voix que vous entendrez, ce sont ceux des gaikokujin, des étrangers. Bon, c'est beaucoup de plaisir pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'affinités entre les centres d'intérêt des autistes et ceux des gens du coin. L'informatique, bien sûr, et plus généralement la culture otaku.
À la culture otaku, c'est le fait, ce sont les gens qui vivent dans un monde de bande dessinée, c'est ça, un monde de BD.
Tout à fait, avec ces personnages de BD ensuite transposés dans l'univers informatique. Ouais. Tous ces personnages qui fascinent les autistes du monde entier et auxquels au Japon on voue un véritable culte. Hier, je suis allé dans la Mecque de la culture otaku, à savoir le mythique quartier d'Akihabara. Mis à part la foule silencieuse mais présente, ce lieu est à peu près aussi proche de ce que peut être une ville autistique fantasmée avec ces gens passionnés par leurs personnages immatériels, par l'univers électronique. Peut-être qu'entre japonais et autistes, on a le cerveau un peu câblé pareil. Hein. Pour être à l'aise, les japonais ont besoin d'avoir, par exemple, sur leur toilette, beaucoup de petits boutons avec beaucoup de textes qui décrivent le fonctionnement des toilettes qui du coup ressemble à un cockpit d'avion. Idem pour les cartes, les plans de métro, tout cela c'est facile, c'est plaisant pour les japonais comme pour les autistes. Finalement, parfois, il faut faire quelques kilomètres, il faut rencontrer l'autre pour enfin pouvoir être soi.
Quel joli programme, rencontrer l'autre pour être soi. C'est sur cette sage parole que je prends congé. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans cette réécoute des grands reportages des carnets. Avec Marc Fréjean et Florence Gimalac, on en prépare d'autres pour dimanche prochain. On compte sur vous pour ce rendez-vous à 13h dans une semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.